Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Semaine de la mi-juillet 2024, ici Alex Bergeron. Bienvenue au deuxième service de cette semaine. Content de vous retrouver à nouveau. Un jour, l'intro de la 300e disparaîtra. Petits oublis comme ça, mais c'est pas grave. On est bien là, on est bien en direct cette semaine. Et mon Dieu! Ça va être dur de passer à côté. Sachez-le! Il y avait une convention républicaine aux États-Unis cette semaine. Où Donald Trump a été consacré... grand champion à cette course très prévisible, avant ou après tentative d'assassinat. Mais disons que d'avoir été frôlé par balle au début, à la fin de semaine dernière, a encore plus concrétisé le fait que Donald Trump va être le candidat rouge pour la prochaine élection. Qui plus est, on a sorti tambour, trompette, feu d'artifice et projection sur grand écran pour rappeler les images du samedi précédent. Que ce sera un point tournant dans la campagne. On ne réussit pas à s'entendre encore à savoir si vraiment la tentative d'assassinat aura été suffisante pour donner la victoire à Donald Trump coûte que coûte. Mais c'est sûr que l'image, le point en l'air avec le drapeau américain restera important. Côté bleu, rien ne va plus non plus. En début de semaine, Joe Biden continuait de dire qu'il allait rester le candidat démocrate. Mais plus la semaine avançait, plus lui-même commençait à être un peu inquiet, au point même que des personnes importantes du côté démocrate se sont dit que « Ouais, Joe, tu devrais peut-être laisser ta place toi aussi. » Nancy Pelosi et Barack Obama lui-même, pour ne pas les nommer. Et semblerait-il, dans une conversation privée, que Joe Biden aurait dit les mots « Je songe à peut-être quitter. » Mais... évidemment, on ne va pas dire clairement « Biden démissionne. » Il a tout de même le droit de rester dans la course pour l'investiture démocrate. Pour être le candidat démocrate aux élections. Reste quand même... Obama, encore très important dans le Parti bleu, et Pelosi invitent Biden à réfléchir sur sa candidature. CNN rapportait en août mercredi soir que Nancy Pelosi a fait valoir que les sondages montraient qu'il ne pourrait pas battre Donald Trump. En restant dans la course, il pourrait de plus mettre en péril ses chances, les chances démocrates de reconquérir la Chambre en novembre prochain. Parce que oui, il y a un risque de garder Joe Biden. Parce qu'autant la majorité n'est pas énorme au Sénat, autant qu'à la Chambre des communes, ça se joue par moins de 10 représentants, sauf erreur. Et si justement il y a des luttes serrées qui s'annonçaient, le fait de garder Biden, ça peut faire en sorte que justement le vote est de l'autre côté de la Chambre et donne une majorité rouge. Et une majorité rouge aux États-Unis avec l'ange descendu du ciel pour protéger Joe Biden, pour protéger Donald Trump, mon Dieu, beau lapsus. L'ange descendu du ciel pour protéger Trump, c'est un miracle qu'il soit encore là, grâce à Dieu qui a protégé Donald Trump la fin de semaine dernière, etc., etc. Disons qu'une Amérique 100% rouge ne serait pas particulièrement invitante. Ou en tout cas, on ne serait pas particulièrement invité à aller aux États-Unis pendant 4 ans. Quoique, il y en a qui peuvent continuer à vouloir y aller. Mais une Amérique qui veut se refermer, fermer les frontières, déporter plein de monde, etc., c'est pas vendeur. En outre, dans son discours prononcé hier, revenons à Trump, discours de 2 heures et 6 pas plus, et c'est gâté. Baisse d'impôts, bien sûr. Vous payez trop. On fera diminuer les impôts, a-t-il clamé. Trump veut mener la plus large opération d'expulsion dans l'histoire du pays. Fermer les frontières dès le jour 1 de sa présidence. Terminer le mur entre les États-Unis et le Mexique. Même si c'est toujours pas fait. Lui, il va mettre fin à toutes les guerres en appelant au téléphone. Il va appeler Zelensky, il va appeler Poutine, il va dire « Arrêtez de faire la guerre. » Puis miraculeusement, ça va s'arrêter. Bref. Les très, très grandes lignes de ce discours-là. Évidemment, on espérait que Donald Trump s'adoucisse dans un climat, justement, qui est de plus en plus tendu aux États-Unis. Ça avait l'air d'augurer comme ça. Ça commençait. On était un peu plus calme. Mais évidemment, excitation de la foule. On est revenu dans les bonnes habitudes, ça n'a pas pris de temps. Un peu comme au débat. Au débat, Donald Trump avait l'air calme au début. Et puis, très rapidement, il est revenu à ses bonnes vieilles habitudes. Donc, le discours de jeudi soir n'a pas fait exception. Essentiellement, tout est de la faute des démocrates, tout est de la faute de Joe Biden. Lui seul ramènera le gros bon sens, pour ne pas utiliser cette expression consacrée. Les immigrants sont comme Hannibal Lecter. Le virus chinois a tout détruit l'économie américaine. Nancy Pelosi, la folle. Les woke sont des imbéciles au sommet. Non, il y a des imbéciles au sommet woke dans l'armée américaine. Fait que tout va bien. Il est encore bien présent. Fait que voilà. Ça, c'est acquis. Donald Trump sera le candidat rouge. Du côté bleu. Évidemment, le plus rapidement possible, on va souhaiter si Joe Biden se retire de la course. Mais qui pour remplacer Joe Biden? Et ça, c'est la question la peut-être la plus importante, parce que oui, c'est beau remplacer Joe Biden, mais par qui? Kamala Harris serait la pressentie, sa vice-présidente. Ce qui est un choix logique. Mais dans les faits, Kamala Harris n'a pas été une vice-présidente particulièrement appréciée. Ses sondages avant le débat de Joe Biden n'étaient pas particulièrement bons. Elle n'était pas particulièrement aimée non plus du public américain. Donc, c'est sûr que si du jour au lendemain, au moment où Joe Biden annonce qu'il va se retirer, Kamala Harris, évidemment, va être pressentie pour le remplacer. Bien, il y a une job importante qui va devoir être faite pour réussir à convaincre les Américains que elle serait une bonne candidate pour remplacer Joe Biden d'un, mais qu'elle serait aussi une candidate présidentiable pour prendre la tête du pouvoir et devenir la première présidente américaine, qui plus est. Et ce, face à un Donald Trump, on ne peut plus confiant de gagner. Et encore une fois, pas seulement à cause des événements de la fin de semaine dernière. Parce que oui, on a cru que maintenant Donald Trump, le martyr, allait être soudainement le grand gagnant de toutes les courses où c'était serré, mais ce n'est techniquement pas encore le cas. Quelques sondages ont commencé à émerger et l'aiguille n'a pas était majoritairement non plus du côté de Donald Trump. Il reste encore un jeu. Mais c'est sûr que ça va jouer, mais à quel point ça va jouer, ça, c'est encore difficile de le savoir. Et semblerait-il, pour conclure le segment, en date de mercredi, le FBI aurait fini par accéder au cellulaire du jeune de 20 ans qui a tenté de tuer Donald Trump. Le FBI a finalement été capable d'accéder au cellulaire de Crook et ses autres appareils électroniques. Les agents ont pu retrouver sur ses appareils, cellulaires, ordinateurs et des images de Donald Trump, mais aussi des images de Joe Biden. Tout comme le directeur du FBI et le secrétaire général des États-Unis. Crook aurait recherché des termes sur Google comme trouble majeur de dépression et aurait cherché des dates, les dates des prochaines apparitions publiques et de Donald Trump et de Joe Biden. Comme l'apparition publique de Donald Trump était dans le même état que le sien. C'est pour ça qu'il aurait choisi Donald Trump. Donc, le FBI en vient à la conclusion que même si il aurait donné un moment donné 25$ aux démocrates, même s'il était enregistré comme étant un voteur républicain, lui avait seulement l'intention de tirer sur un des deux. Lui voulait juste tuer quelqu'un pour, on pense, se faire tuer. quelles sont les meilleures chances pour lui d'être certain de se faire tirer dessus, viser l'actuel ou l'ancien président des États-Unis, parce que le service secret sont censés les protéger un et l'autre. Il y avait eu aussi des reportages qui disaient que dans son club de tir, il n'était pas spécialement bon. Ce qui pourrait expliquer que justement, il ait manqué Donald Trump. Mais il y a aussi certaines autres images qui disent que si Donald Trump ne s'était pas tourné la tête en faisant son discours, ben, il aurait pu être atteint plus sévèrement vu que justement, lui, il n'est pas bon, il était prêt pour une certaine position, il s'est tassé, ça y a frôlé l'oreille. Fait évidemment, c'est difficile de parler de ça parce qu'il y a mille et une réponses possibles, mais selon le New York Times, en date de mercredi, ce que les agents du FBI ont trouvé, c'était qu'il avait l'intention de tuer peu importe qui. Celui qui allait être le plus proche de la Pennsylvanie où lui-même restait aurait la possibilité d'avoir une tentative contre eux autres. Et ça a donné que c'était Donald Trump samedi dernier. Donc, dans ce cas-là, c'était pas parce qu'il haïssait l'un plus que l'autre. C'était vraiment dans la qualité où Donald Trump était le plus proche de où lui résidait. Ça donnait que c'est Donald Trump qui allait croiser son chemin cette journée-là. Et non pas Joe Biden cette journée-là. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. On va parler cinéma, entre autres, cette semaine. Quelques critiques, parce que ça faisait déjà un petit moment qu'on n'avait pas fait. Allons écouter tout de suite celle de nos belles-sœurs. Dernier film, en fait, premier film de René Richard-Cyr qui a pris l'affiche la semaine dernière.
Le million de timbres prime Goldstern, c'est moi qui a gagné!
Toi, ça, vous avez gagné?
Vous, ça?
Pardon?
La maudite chanceuse.
Madame Lozon?
Est-ce que je suis sur les ondes, là?
Germaine?
Moi?
Un million? On va vous en faire des timbres à coller, ça, madame?
J'ai invité ma soeur, ma belle-soeur et mes voisines à venir m'aider. On va se faire un party de collage de timbres.
Mais là, tu rentres pas à minuit, là.
Mais Roland, c'est ma soeur.
Mm-hmm.
Ça va me faire du bien, une petite sortie.
Mm-hmm. On peut-tu commencer à coller des timbres en attendant?
Non!
J'ose! Des matelas pis des meubles neufs.
Tout ça vous coûtera pas une scène.
Pas une scène.
Vous savez pas, hein, la vie que je mène depuis que j'ai ma belle-mère sur le dos.
Vous êtes une sainte femme.
C'est pas mêlant, vous m'émouvez jusque sur l'âme. Bon.
C'est qu'elle rentre Chester.
Il a fallu qu'elle rencontre Johnny.
Toute sa faute, c'est devenu ce qu'elle est. C'est lui qui l'a dévergondée puis qui en a fait une fille de mauvaise vie.
Salut tout le monde!
Mon Dieu, Pierrette, que c'est que tu fais ici?
Toi?
La chance tombe toujours sur les seuses qui ne méritent pas.
Je peux même pas avoir une petite joie qu'il faut toujours que quelqu'un vienne de tout côté.
Il n'y a pas de danger, là!
De droguer ça.
Bingo! Bingo! Oh, bingo!
Lisa, vous mettez ton collet comme fou, là.
Je trouve ça beau de même.
Non, c'est pas beau. On dit pas ça, je trouve ça beau de même. On dit je trouve cela beau comme cela. Vous disiez bien des erreurs, je trouve. Bon, allons-y.
Nos belles-sœurs, le film à ne pas confondre avec Les belles-sœurs, pièce de Michel Tremblay. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans un quartier tout sauf huppé de l'île de Montréal à la fin des années 60, Germaine Lauzon, heureuse gagnante d'un million de timbres Gold Star, grâce auquel elle pourra enfin acheter par catalogue tous les électroménagers, meubles, vêtements et autres accessoires dont elle a toujours rêvé. Lorsque la ménagère invite sa fille, sa sœur et ses voisines à une petite soirée pour l'aider à collecter tous les dix timbres dans les nombreux livrets de commandes, la jalousie s'installe de plus en plus chez ces femmes appartenant à une époque qui tarde à être révolue, inspirée de la pièce de Michel Tremblay. Et le inspiré de la pièce est très important parce que, notamment, il manque la fin de la pièce. Le film finit sec. Et pour ça, c'est un petit peu décevant. Quoique le film dure quand même, c'était quoi? C'était quasiment 2 heures. Fait il était d'une bonne durée. La pièce de théâtre, c'est sûr qu'elle est un peu plus longue. Mais je trouvais ça particulier qu'on décide de comme laisser partir une bonne partie de la pièce pour le film. Quoique l'essentiel de la pièce est là, mais le troisième acte a disparu. Fait que déjà là, en partant, il n'y a comme pas vraiment de conclusion à ce film-là, ce qui est un petit peu décevant. Et sinon, ben, comme c'est inspiré de la pièce musicale avec la musique de Daniel Bélanger, dont René Richard-Cyr avait lui-même fait la mise en scène de la pièce de théâtre qui avait été acclamée partout, ici au Québec et en France, avec Marie-Thérèse Fortin dans le rôle principal. Dans le film, c'est Geneviève Schmidt qui reprend le rôle. Seule Guylaine Tremblay est dans la pièce et le film, mais elle ne joue pas le même rôle. Et dans la pièce et le film, elle joue dorénavant le personnage de Thérèse. Donc, elle reprend le rôle de c'était Dominique Pétain, je pense, dans la pièce de théâtre qui jouait le rôle. Fait que, sinon, essentiellement, c'est un nouveau film, c'est une nouvelle adaptation. C'est bon, tu sais, on rit les bouts de drôle, mais c'est pas une réussite extraordinaire non plus. Tu sais, mettons, à prendre exemple sur un rue ou sur le temps d'un été. Dans les. Pour mettons l'été passé, justement. Nos belles sœurs. Pas besoin de connaître la pièce. Même, je pense que c'est un avantage si on ne connaît pas la pièce dans ce cas-ci de pas savoir qu'il y a une autre fin. Ça peut être peut-être un bon point pour le film. Mais sinon, quelqu'un qui s'attend à revoir la pièce de théâtre au complet va rester sur sa fin, va être un peu déçu. Et. Comme plusieurs l'ont dit dans d'autres critiques, c'est assez inégal, au sens où il y a des chansons qui sont présentes, qui sont là dans le film, mais est-ce que ça a rapport avec le reste du film? C'est à se poser la question. Tu sais, la toune du bingo avec Benoît Brière qui fait le curé, on enlève tout ce début de film-là, puis... Le film se tient encore. T'sais, le numéro de bingo, il se blende pas, il se mélange pas avec le reste du film. Puis ça, ça arrive à 2-3 autres occasions. Là, t'sais, des chansons, Véronique Dicker, Debbie Lynch White le subissent. T'sais, gros plan sur leur visage qui chante la chanson du début à la fin et qui a presque pas d'autres changements de plan. C'est longtemps, un 2 minutes et demie de gros plans sur le visage d'une seule personne. Et ça, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher au film dans plusieurs scènes. C'est qu'au lieu d'avoir, par exemple, un plan d'ensemble, d'avoir la réaction de toutes les femmes quand une va dire quelque chose qui n'a pas de bon sens, ben on est en gros plan sur ce personnage-là. Mais ce qui est intéressant dans un film, c'est d'avoir toute la tablée, d'avoir toutes les actrices qui vont de leur réaction simultanément. Dans l'idée où, par exemple, quand le personnage d'Anne-Elisabeth Bossé, Rose Ouimet, elle commence à raconter un peu son mariage puis tout ça, bon, on est en gros plan sur Anne-Elisabeth Bossé. Et de temps en temps, on va aller chercher des réactions des autres. Mais ce qui aurait été intéressant dans cette scène-là, c'est d'avoir les réactions de tout le monde autour de la table, d'avoir toutes les femmes qui se regardent, puis « Mon Dieu, mais c'est bien malaisant » ou « Mon Dieu, c'est pas évident qu'est-ce qu'elle vit » puis tout ça. Tu sais, d'avoir l'espèce de réaction simultanée de tout le monde plutôt que d'être très carré de chaque personnage vit sa vie. C'est quasiment se demander s'ils n'ont pas tourné chacun une journée puis que de temps en temps, ils étaient assis autour de la table. Mais tu sais, l'espèce de cohésion de groupe... On la sent, mais ça aurait été intéressant de la voir beaucoup plus que de juste les avoir toutes séparément. T'sais, une autre chanson, la chanson des ménagères frustrées qui passent le balai dans la rue. T'sais. On comprend. C'est pour expliquer comment qu'elles se sentent, Mais est-ce que dans la continuité d'un film et non pas d'une comédie sur scène, ça fonctionne? T'sais, est-ce que la scène est justifiée à ce moment-là? Il y a des beaux visuels. Je vais prendre la chanson qui se passe d'une fête foraine. C'est beau! Est-ce que ça a rapport avec le film? La question est là. Fait que, puis la chorégraphie est un peu étrange aussi. Mais bon, fait que tu sais, plusieurs petits trucs un peu imparfaits, mais ça reste drôle. Puis il y a une belle surprise aussi au snack bar avec des clients particuliers. Mais tu sais, ça, ça fait sourire, évidemment. Tu sais, il y a des bonnes lignes, il y a des trucs drôles dans ce film-là. C'est pas un mauvais film. Mais il y a certains choix artistiques de René Richassé que, oui, c'est son premier film, mais que tu fais comme, ah ouais, il a décidé ça, OK. On va suivre la proposition, mais ça, on m'aurait pas fait ça de même. Tu sais, il y a certains petits trucs comme ça, puis certaines chansons qui, bon, dans le film, qui sont encore pertinentes, encore bonnes, oui, mais en tout cas, faites-vous votre propre opinion. C'est toujours ça qu'il faut dire. Le film est à l'affiche un peu partout au Québec. C'est le film québécois cet été qui est là. Nos belles-sœurs, à ne pas confondre avec les belles-sœurs. Et ça, de toute façon, René Chassé le disait lui-même en entrevue. C'est une version des belles-sœurs. Ce n'est pas les belles-sœurs de Michel Tremblay, c'est une version des belles-sœurs de Michel Tremblay. Ce sont nos belles-sœurs, c'est notre film. Etc. On s'arrête là-dessus. Courte pause, au retour, la suite du deuxième service cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et le 94.3 à Québec. Trudeau de Gab Bouchard, qu'on vient d'entendre en musique. C'est l'année 2022 cette semaine pour la playlist musicale du deuxième service. Autre bande-annonce cette semaine, film américain. On reste aux États-Unis et on est dans une thématique bien connue. Emmène-moi sur la lune, avec notamment Scarlett Johansson et Channing Tatum.
Salut, Joe.
Salut, Cole.
Mademoiselle, il y a le feu.
Très original. Non, je ne vais pas vous suivre vers la sortie de secours.
Je veux dire, il y a le feu à votre livre.
Oh
OK.
Oh, mon Dieu.
Alcool et le feu, ça fait pas bon ménage. Cole Davis.
Kelly Jones.
Le soutien du public à la mission lunaire est au plus bas.
Tous les jours, il y a quelque chose qui se brise.
On est mort, encore une fois.
Ou alors ça explose.
Le programme spatial est un énorme gâchis.
La NASA a besoin d'une spécialiste en marketing et vous êtes la meilleure.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ici?
Je vous ai recherché parce que je sens qu'on a des affinités.
Quoi?
Je plaisante. Je travaille ici maintenant. Je vends la Lune.
On ne vend pas la NASA avec un jingle et un slogan.
Quand j'en aurai fini, ces hommes seront plus célèbres que les Beatles.
C'est qui, lui?
Ça me tient vraiment à cœur.
Il a le même nom que moi.
Vous avez dit que vos hommes ne donnaient pas d'entrevue. Alors, j'en ai embauché d'autres.
Je suis là pour l'audition. C'est qui, lui?
C'est vous. Un très beau rôle.
60 missions en Corée?
J'ai effectué 52 missions en Corée.
J'ai effectué 52 missions en Corée. Comment c'était?
Quoi?
Le monde entier aura les yeux rivés sur nous. On ne peut pas permettre aux Russes de nous damer le pion. On va devoir tourner une version de secours de l'alunissage.
Un faux alunissage. Personne ne doit jamais apprendre ce que nous faisons.
Je ne peux pas accepter ça.
Ils vont vous tuer.
J'ai quoi comme budget?
Oh, c'est pas vrai.
Je connais beaucoup mieux la Lune que je ne vous connais.
Feu vert ou feu rouge pour le décollage?
Si vous simulez cette mission, tout ce qu'on a sacrifié n'aura servi à rien.
Jamais vous n'auriez pu arriver jusqu'ici sans moi.
Mon Armstrong est une petite diva capricieuse. Faut refaire le casting.
Je savais qu'on aurait dû engager Kubrick.
Amène-moi sur la Lune, fly me to the moon. Les États-Unis et l'Union soviétique sont en pleine course à la Lune. Les Américains préparent la mission Apollo 11 qui doit se poser sur le sol lunaire en 1969. Le directeur de lancement, Cole Davis, planche sur ce projet de longue haleine. Miséculeux, ultra-rigide, cet homme décoré à la guerre est porté par son sens de la vérité et de l'honneur. Quelle n'est pas sa surprise de voir débarquer Kelly Jones, une spécialiste du marketing, embauchée par le gouvernement pour redonner adoré le blason de la NASA. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins, même à recréer l'histoire. Quoique, ce n'est pas tout à fait elle qui veut réécrire l'histoire, mais ça, c'est à découvrir dans le film. Essentiellement, c'est comme deux films en un. Au sens où la première partie du film, avec justement cette Madame Kelly Jones, vendeuse, agence de marketing dans les années 60, dans un milieu d'hommes qu'elle doit faire sa place, puis tout ça, puis qui est capable de vendre, d'avoir Neil Armstrong qui porte une Rolex, parce que les Américains, les astronautes américains qui vont dans l'espace utilisent Rolex, déjeunent aux Rice Krispies, et le placement publicitaire, tout ça, l'espèce justement de mise en marketing de la NASA pour que les gens s'intéressent de nouveau justement au programme de la mission spatiale américaine d'aller sur la Lune, parce que Apollo 1, ben, ça s'est terminé dans une tragédie. C'était-tu Apollo 1? Mon Dieu, en le disant, j'ai eu un doute. Mais bon, il y a eu d'autres missions précédentes qui, bon, se sont mal terminées. On essaie d'ajuster le plus possible pour que justement Apollo 11 soit un succès. Qu'on puisse envoyer des astronautes américains sur la Lune, qu'ils aillent poser le pied sur la Lune et qu'on essaye d'avoir des images de ça. Et de là intervient la deuxième partie du film qui devient un autre film complètement. Parce que justement, on l'a dans la bande-annonce, du moins dans cette bande-annonce-là, soudainement, on doit prévoir le coup si jamais la caméra sur Apollo ne fonctionnait pas. Il faut quand même avoir des images à envoyer au monde entier lorsque les Américains arrivent sur la Lune, quitte à mettre l'audio de l'espace, mais les images faites sur Terre. Et comment faire? Ben, on va être dans un studio et on va faire l'alunissage sur Terre pour les gens d'un coup que ça ne marcherait pas. Mais là... Et il y a une joke de Stanley Kubrick là-dedans aussi. Là, on tombe justement dans ces théories-là aux États-Unis qui veulent que justement l'être humain n'a jamais été sur la Lune et que ça s'est bel et bien passé en studio. Certaines versions disent que justement c'est Stanley Kubrick, le réalisateur du faux alunissage, mais sur la Terre. Dans le film, on dit que Kubrick n'est pas disponible parce qu'il vient de remporter un succès avec son film, puis là, il est donc aimé, fait qu'il n'a pas le temps de faire ça. Fait qu'on enlève Stanley Kubrick de la version du film, mais on joue quand même sur le fait de « Sont-tu allés sur la Lune ou ça s'est fait aux États-Unis? » Fait que, tu sais, c'est pour ça que la deuxième moitié du film, tu fais comme « Ah! » Il me semble que j'aurais continué avec le film de la madame de marketing qui réussit à trouver tous les petits tours de passe-passe pour convaincre des politiciens de continuer d'approuver le projet de la NASA. Puis tu sais, le bout de politique et le bout justement marketing de « Hey, on devrait... Rolex va embarquer, American Express va embarquer, les Rice Krispies, Kellogg, le déjeuner de l'astronaute qui se lève du bon pied. » Fait que tu sais, tous ces slogans-là, ces campagnes de publicité-là, c'est intéressant ce bout-là. C'est ça que je dis, la première partie du film est super intéressante. Là, quand on tombe dans l'alunissage, il faut reproduire la Lune en studio, puis tout ça... Ouh, on flirte dangereusement avec d'autres choses. Et justement, il se passe beaucoup de choses dans ce film-là. Celui-là, c'est un film de 2 heures, fait qu'il est quand même assez dense, mais c'est comme un 2 en 1. Si ça avait été que le marketing, ça aurait pu être un film. Ça avait été que la théorie du complot que personne n'est allé sur la Lune, c'est un autre film. Fait que, à quel point on dit que l'un est plus important que l'autre? Pas nécessairement, mais le personnage en tant que tel de Kelly Jones est intéressant. Fait que ça aurait pu être que ça, que Scarlett qui fait comme OK, j'ai une idée pour vendre une Chrysler. Puis dans l'an, tu sais, juste ça, ça aurait pu être bon. Mais là, on tombe dans les trucs d'espace. Puis là, oh, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Tu sais, on laisse ça un peu en suspens de ça s'est-tu passé pour vrai ou pas. Fait que c'est un peu à double tranchant, mais ça reste quand même intéressant. C'est un long film, par contre, faut s'y atteler. Mais encore une fois, c'est pas un mauvais film, mais c'est comme deux films. Je sais qu'on veut plaire à tout le monde, mais là, un moment donné, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Fait que voilà. Amène-moi sur la lune, Fly Me to the Moon, à l'affiche encore un peu partout. On a sa deuxième ou troisième fin de semaine sauf erreur. Donc, il est encore en salle pour quelques temps, bien sûr, parce que ça s'en va en vidéo sur demande très rapidement. C'est Apple sauf erreur qui produisait le film. On s'arrête quelques instants au retour. La conclusion de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Marjorie de Narcisse qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Pour terminer cette semaine, une nouvelle qui est passée complètement dans le beurre parce que, aux surprises, Simon-Jolin Barrette n'en a pas fait l'annonce publiquement, mais c'est un bon coup. Fait que pour une fois que la CAQ fait quelque chose qui a un peu de sens, ben il devrait le souligner, mais non. On a peut-être un petit peu peur des réactions que ça pourrait provoquer. C'est notamment ce que croit le professeur à l'Université de Montréal, Jean-Sébastien Fallu, qui croit bon que le gouvernement Legault ne voulait pas publiciser la déjudiciarisation de la possession de drogue, parce que cette mesure qui se veut ultra-progressiste ben, ne plaira pas à la frange conservatrice de la CAQ. Puisque, sans que même les policiers soient au courant, fumer du crack, prendre de la cocaïne, s'injecter du fentanyl est dorénavant à l'abri des poursuites judiciaires au Québec. Le gouvernement Legault a choisi d'en informer que très peu de personnes, au point même que les policiers ne le sont même pas au courant eux-mêmes. La possession simple de drogue, donc sans l'intention d'en faire le trafic, est déjudiciarisée de facto depuis l'an dernier. Ça fait un an! Le cabinet du ministre de la Justice du Québec a confirmé à Radio-Canada l'information rapportée d'abord par Le Devoir en début de semaine. Le changement n'a fait l'objet d'aucune publicité ni médiatisation, ni les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, ni les corps policiers du Québec ont été informés. Et c'est pourtant une demande formelle, notamment de la santé publique de Montréal de le faire et du service police de la ville de Montréal. Et techniquement, c'est fait depuis un an. Dans l'avis publié en catimini dans la Gazette officielle du 24 avril 2023, le ministre Simon-Jolin Barrette prévoit le recours à des mesures de déjudiciarisation. L'avis recommande d'engager des poursuites pour possession simple de drogue seulement dans des circonstances posant un risque pour la sécurité publique ou quand la possession est accompagnée d'une autre infraction. Mais quelqu'un qui aurait sur lui de la drogue pour en consommer pour sa propre personne ne serait pas arrêté systématiquement et poursuivi pour avoir de la drogue sur soi. Le 25 avril 2023, au lendemain de l'avis du ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, a modifié sa directive destinée au procureur. Le nouveau document détaille les circonstances à considérer qui n'apparaissaient pas dans la directive d'origine. Donc, eux-mêmes ont interprété la loi. On recommande des accusations criminelles quand la possession simple de drogue est constatée en présence de mineurs au volant d'un véhicule, dans un contexte de violence, en présence d'une arme, en lien avec un groupe criminel ou si elle pose un enjeu de sécurité des travailleurs. Donc, quelqu'un qui est gelé dur sur un chantier pourrait se faire arrêter parce que la sécurité est en danger. Mais sa job est finie puis il s'en retourne chez eux. Techniquement, c'est correct. Le DPCP recommande des accusations criminelles si la possession simple de drogue est commise dans des circonstances qui troublent la paix publique ou qui compromettent le sentiment de sécurité des résidents et des personnes qui fréquentent un quartier, par exemple. Juin 2022, le Parlement canadien avait adopté le projet de loi C-5 qui prévoit le recours à des programmes de traitement ou d'autres services de soutien au lieu de porter des accusations pour possession simple de drogue. Dans son avis, l'année suivante, le ministre Jolin Barrette mentionne que c'est en continuité de cette nouvelle législation fédérale qu'il a estimé appropriée de formuler une orientation afin d'encadrer la discrétion des poursuivants en matière de possession simple de drogue. Mais où c'est problématique, c'est que les policiers, généralement les principales personnes qui vont arrêter des gens qui consomment de la drogue, le savaient même pas. Le service de police de Laval n'a pas été avisé du changement de la directive qui touche la poursuite des accusations au niveau du DPCP. La directive du service reste la même, donc la méthode de travail des policiers est inchangée. Même réponse pour les services de police de Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Châteauguay, Granby. Les policiers continuent donc d'appliquer la loi et de faire remonter des cas à des possessions simples au DPCP, même si celui-ci ne donnera pas de suite à ces dossiers. Donc, en ce moment, nos policiers arrêtent quand même le monde, mais seront relâchés par la suite parce que, de toute façon, la direction des poursuites criminelles ne fera pas d'accusations supplémentaires. Donc, quelqu'un qui se promène sur la rue en a, fait fouiller ses poches, il l'arrête. Rendu au DPCP, si ce n'est pas dans, justement dans un contexte de violence ou de mettre en danger autrui, relâche la personne. Il n'y aura pas d'accusation. Fait que tout ça pour ça. Ce qui est complètement ridicule. Ça veut dire, selon Lynn Beauchesne, professeure au département de criminologie à l'Université d'Ottawa, que les policiers font tout un travail pour rien. Ils ont mille autres choses à faire que des interventions inutiles. Et c'est effectivement le cas parce qu'il n'y aura pas de suite anyway. Mais maintenant que c'est connu, peut-être qu'il y aura certains services de police qui vont s'ajuster. Mais pour l'instant, la directive, c'est quand même arrêtez-les, mais le DPCP ne portera pas d'accusation. Complètement inutile comme ça. C'est saugrenu de ne pas aviser les policiers, les premières personnes concernées, Jean-Sébastien Fallu, professeur de l'Université de Montréal et chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances du CIU3S Centre-Sud de l'île de Montréal. Le gouvernement ne veut pas que ça se sache car cette mesure progressiste ne plairait pas à l'électorat de la coalition de Québec. L'information publiée par la Gazette officielle est accessible à tous, précise de son côté Simon-Jolin Barrette. Évidemment, ça ne ravira pas genre Pierre Poilievre qui, lui, demande à ce qu'on ferme certains sites d'injection supervisée en disant ben les drogués qui arrêtent de prendre de la drogue, comme si c'est de même que ça allait marcher. Et, ironie du sort, ça reste quand même un candidat à la premier ministrable qui dit à son adversaire, arrête de t'ingérer dans les compétences des provinces et se prononce sur une compétence provinciale en disant fermez ce centre à Montréal de l'incompétente Valérie Plante. Mais bon, rien n'est saugrenu dans ce monde, ni même Pierre Poilievre qui est saugrenu, point. Bref, on s'arrête là-dessus. C'était le deuxième service de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service. Ici même, sur les ondes de CFAQ 81.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. À la semaine prochaine. Salut!